Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, bienvenue. Comme tous les lundis, voici le rendez-vous traditionnel avec nectar.ge.ch. Retrouvons tout de suite Aristide et son invité. Bonjour.
Aristide vous salue avec grand plaisir, vous remercie de votre fidélité qui vous permettra au fil des émissions de tout savoir sur les vins genevois, donc de les admirer davantage. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un gitan. Donc le gitan est en face de moi. C'est pas un gitan qui tresse des paniers, qui habite dans une roulotte. C'est un habitant de Gy, et c'est Monsieur Anthony Fonjala du domaine du Chambet. Bonjour.
Exactement. Bonjour. Merci de l'invitation.
Ben avec grand plaisir. Je dois dire que ça fait longtemps que j'étais en embuscade pour vous inviter pour différentes raisons. Et une fois au cave ouverte il y a 2 ans, j'avais fait un arrêt au domaine du Chambet. Et alors quand je suis au cave ouverte, je prends toujours des petites notes. Et j'avais goûté tous vos crus un après l'autre, et puis prétentieusement je mets des notes comme ça sur 10, parce qu'au cave ouverte faut pas boire de station en station. Et puis vous y aviez eu une excellente moyenne, un très bon
plaisir.
Carnet comme qui dirait. Et puis donc j'ai grande estime pour votre domaine. La première rubrique que nous prenons aujourd'hui, c'est une rubrique qui est nouvelle, c'est commentaire. C'est-à-dire que je prends un ou deux faits d'actualité, et puis si c'est quelque chose que vous avez envie de commenter, vous donnez votre avis là-dessus.
Avec plaisir.
J'ai entendu l'autre jour sur une radio qu'en France, sur les 20 dernières années, les gens boivent 20% de vin en moins. Est-ce que c'est inquiétant ?
Non, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est vrai qu'on consomme moins pour plusieurs raisons, la voiture, aussi la santé. Et puis, mais finalement, on consomme qui dirait mieux. Du coup, en gros, les gens se dirigent plutôt vers des vins de qualité. Et puis nous, en Suisse principalement, et du coup à Genève aussi. Et puis on venait vraiment dans cette direction aussi là, de faire des vins de qualité. Et puis du coup, pour nous, non, c'est pas vraiment une crainte, mais plutôt un cursus.
Voilà, donc c'est réjouissant, on boit moins, mais mieux, et ça devient une espèce d'art plutôt qu'une façon de sombrer. C'est ce que je considère personnellement, notamment quand je vois tous ces bars à vin en ville. Donc là, il y a un certain esthétisme du vin.
C'est un produit qui est aussi déjà illustré par une étiquette, qui a toute une histoire derrière. Et puis c'est vrai que la passion du vin amène des clients justement qui se dirigent aussi vers les petits producteurs et vers les artisans comme nous, du coup, plutôt que dans les grands vins de grands commerces. Donc finalement, non, c'est plutôt intéressant.
On boit avec distinction, et c'est pas les poivrons qui attaquent au rosé à 8h du matin, c'est ça?
Je sais pas, il en faut peut-être pour tout le monde, je sais pas.
C'est réjouissant. Une autre chose que j'ai lu dans la presse, j'ai vu, dans la Tribune de Genève, à ma stupéfaction, qu'une grande chaîne de magasins vend du vin orange. Est-ce que vous êtes tombé sur cet article ?
Non, mais je connais le vin orange.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors le vin, on va dire orange, c'est un vin blanc finalement, mais travaillé comme un rouge. J'en ai essayé un justement cette année avec un pinot gris. Un pinot gris du coup qui a une couleur naturellement assez violacée. Pourtant, c'est un vin blanc.
Voilà.
Et voilà, on extrait du coup dans les vins blancs, à l'instar du rouge, la pulpe des peaux pour finalement avoir un vin clair. Alors que le rouge, on va me faire macérer avec les peaux pour retirer vraiment une couleur. Et un vin orange, c'est un vin blanc qu'on laisse macérer avec ses peaux pour obtenir vraiment cette couleur. Et ça fait un vin blanc un peu tannique qui est un petit peu plus extrait comme un vin rouge et qui donne du coup une couleur un petit peu orangée.
Donc c'est pas, vous m'avez rassuré, c'est pas un gadget, une mode éphémère, parce qu'il y a eu des fois des vins qui étaient colorés, on en a vu même en bleu dans l'ancien temps.
Ah oui, ouais.
Voilà, des choses comme
aussi,
ça. Et puis c'est pas non plus un vin aromatisé à l'orange, donc c'est un vin parfaitement respectable.
En fait, peut-être je me trompe, mais moi j'ai l'impression c'est des vins qui viennent, je crois, originairement de Géorgie et de ces régions-là. Et du coup, maintenant aussi, c'est vrai qu'il y a toute cette mode des vins nature, des vins un petit peu hors des sentiers battus. Et puis du coup, le vin orange répond justement aussi à cet intérêt pour les vins originels.
Voilà, vous m'avez persuadé d'en goûter. Je ne l'ai pas encore fait. Ça sera aux urgences. Une dernière question comme ça. J'ai lu dans la même tribune de Genève la déclaration d'un vigneron sans doute très respectable, qui disait le Chasselas, un vin de soif. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui et non. Enfin, comme on entend le vin de soif, le vin ou de la piquette, j'entends pas ça comme un vin de soif, mais c'est vrai que le but du Chasselas, c'est d'avoir un vin qui est désaltérant. Mais après, des vins désaltérants, il y a des grands vins désaltérants, mais là, on cherche vraiment un vin qu'on peut consommer sans guillemets se lasser, avec plaisir. Il y a un côté un petit peu reviens-y. Donc, on boit un verre de Chasselas. Il y a une palette impressionnante de diversité dans les Chasselas. C'est un peu notre chardonnay de Suisse romande et puis de Suisse en général. Voilà, on a tous les terroirs qui sont exprimés à travers ce cépage. Et puis, voilà, aussi, il y a une clé importante d'un bon Chasselas. C'est un Chasselas qui donne envie d'en reboire un deuxième verre. Donc, oui, c'est un vin de soif, mais non, c'est pas une piquette.
Voilà, donc, comme disent les Vaudois, ça redemande. Moi, j'ai peur avec ce terme qu'on boive le vin de manière étourdie. Quand on dit vin de soif, comme quand on a la pépille, on boit de l'eau à grand glouglou. Voilà. Donc, voilà, vous avez un avis entre deux tout à fait nuancé, ce qui est à votre honneur.
Et nous allons tout de suite marquer une première pause dans nectar.ge.ch.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Toujours
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, c'est tout de suite la deuxième partie de nectar.ge.ch.
Toujours en présence de Anthony Fonjala du domaine du Chambay, qui va d'abord nous expliquer ce que c'est qu'un Chambay.
Alors le Chambay, c'est un ruisseau qui longe du coup nos vignes, qui est sur la commune de, enfin le village de Corsinges, enfin la région de Corsinges. Et du coup, on a tiré ce nom de ce ruisseau pour donner le nom. Enfin, c'est mon père qui, lorsqu'il a commencé à vinifier il y a une trentaine d'années, a donné le nom Chambay ou domaine issu du nom du ruisseau.
Alors là, vous me perturbez parce que j'ai cherché sur Internet, je savais pas ce que c'était, j'avoue mon ignorance, et j'ai vu que Chambay, c'était un champ qui était complanté de chanvre.
Alors, j'ai jamais entendu cette origine de ce nom. Moi, je pensais aussi au champ de baie de raisin. Faut rigoler, j'y pensais. Mais non, donc c'est vraiment issu de ce ruisseau-là.
Voilà. À J, il y a des armoiries qui sont très belles et il y a du blé sur l'armoirie de J. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de vignes ou bien beaucoup davantage de cultures maraîchères?
Alors, il y a, à ma connaissance, peu de cultures maraîchères à J. Il y a beaucoup de grandes cultures, donc de céréales, et puis il y a aussi de la vigne. Nous, au domaine du Chambay, on a notre cave qui a J, mais nos vignes sont dans les villages d'à côté. On n'a pas de vigne sur la commune de J. Même si on a une vigne à 100 mètres de la cave, elle se situe sur la
D'accord,
commune de Meignet.
Donc, surface totale du domaine.
Alors, on cultive environ 11 hectares de vigne, et puis on vinifie la moitié en raisin, l'autre moitié on la vend. Et puis voilà, petit à petit, on essaye de... Comme la cave est une cave qui date d'une trentaine d'années, qui est assez jeune, on essaye petit à petit de produire de plus en plus de vin avec notre raisin, et puis d'en vendre à différents coopératives de moins en moins.
D'accord. Histoire du domaine, j'ai l'impression que la vigne à Genève, et par exemple à J, est plus récente que dans la région de Pessy, où il y a des documents historiques, Gondebaud, Aldegarde, etc. J, est-ce que c'est un nouveau venu dans la viticulture genevoise?
Alors bon, après, moi je suis un jeune vigneron de 27 ans, donc j'ai pas forcément l'histoire et les références historiques, je vais pas dire de bêtises, mais j'imagine que cette année, oui, anciennement, cette région-là, c'était, je pense, les premiers aussi à faire leurs propres bouteilles, j'imagine. En tout cas, sur la rive gauche, c'est venu plus tard. Et puis, donc voilà, je saurais pas.
Avant, il y avait la cave de la souche qui récoltait.
Oui, exactement, voilà.
Donc, est-ce que vous vous êtes extrait de la coopérative?
Alors oui, mon père, du coup, livrait, du coup, son raisin à la souche. Et puis ensuite, finalement, la souche a été amenée à disparaître. Et puis du coup, c'est là où aussi mon père s'est lancé pour faire sa propre bouteille.
Ouais, voilà.
Effectivement.
Je m'interroge aussi sur votre origine, parce que Fonjala, c'est un nom qui vient de Lavaux.
Oui,
et
exactement.
Dans mon souvenir, un peu centré sur le village d'Épaisse. Donc il y a, je sais pas quoi, la moitié des producteurs qui sont des Fonjala. Et comment se fait-il que vous soyez venu à Genève? Est-ce que les terroirs sont meilleurs?
Oui, ils sont meilleurs. Non, je rigole. Finalement, voilà, c'est vrai que notre famille Fonjala, originaire d'Épaisse. Donc moi, du coup, mes origines, c'est Épaisse. C'est une famille, une des plus vieilles familles. J'ai lu récemment que c'était, je crois, la deuxième plus vieille entreprise familiale au monde. Parce que depuis 1552, les Fonjala font du vin de père en fils dans la région d'Épaisse. Et puis voilà, forcément, les enfants, les générations se suivent. Et puis là, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc en 1921, ça va bientôt faire 100 ans. Mon ancêtre est parti de la région de Lutry-Épaisse pour s'installer, acheter une ferme à Genève, sur la rive gauche, donc dans le village de J. Et puis voilà, a commencé à cultiver du coup à nouveau de la vigne, à acheter des terres. Et puis par tradition, forcément, il fallait qu'on finisse par faire de la bouteille.
Il y avait un savoir-faire familial dont vous êtes l'héritier. Entre nous, on est d'accord, à J, les vignes sont moins pentues que dans Lavaux.
Ouais, exactement.
Vous appréciez.
On apprécie parce que si, ben voilà, ben nous on est passé du coup en culture biologique, et puis du coup ben il faut avouer que quand même sur des terrains plus moins pentus, la culture de la vigne en biologique est plus facile que dans les coteaux et dans les grandes pentes de l'Avo.
Oui, on peut pas prendre par exemple la machine à vendanger où les traitements se trouvent facilités.
Non, c'est plutôt surtout sur le travail mécanique du sol, justement. Voilà, on peut passer facilement un outil pour désherber sous les ceps, alors que dans les coteaux, ben voilà, ils sont plus facilement, c'est plus difficile.
Ouais, c'est inaccessible. Voilà. Dans la voie, c'est problématique. On traite souvent par hélicoptère.
Voilà, ça se fait. Ouais.
C'est ça, voilà, c'est moins poétique.
C'est moins poétique, c'est vrai.
Et donc tout de suite, nous allons profiter pour faire une nouvelle coupure, la troisième partie de nectar.ge.ch, juste après une pause musicale sur Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève, 92.2 FM. You do. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. That isn't gonna fix it anyway. No.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Les vins genevois sont à l'honneur tous les lundis sur Radio Cité Genève grâce à nectar.ge.ch avec Aristide et son invité.
Toujours en présence de notre invité Anthony Fonjala du domaine du Chambet. Je connais un peu votre production. Il y a un cépage qui mérite quelques explications, c'est le Marcellin.
Oui, le Marcellin, ouais. Alors, c'est un cépage d'origine française, et puis, du coup, qui a un croisement entre Cabernet Franc et Grenache. Et puis, ce cépage, justement, est peu planté à Genève. Il y a, je crois, quelques vignerons qui en font de la bouteille. Et c'est un cépage qu'on utilisait avant pour faire un assemblage. Et puis, c'est vrai que nous, notre domaine est vraiment plutôt centré sur des vins de monocépage. Du coup, on a décidé vraiment de l'entrer encore dans notre gamme. Et puis, c'est un cépage, enfin, selon moi, voilà, qui a un fort potentiel de garde, en tout cas, du moins, de la manière dont je le travaille. Et puis, un cépage qui est très intéressant. Mais on a sorti notre première cuvée, donc cet automne. Donc voilà, encore peu de recul sur ce cépage, mais il mérite bien d'être découvert.
Voilà, donc vous êtes en train de le découvrir d'une
Moi
façon.
Aussi, je
le
découvre, exactement.
Voilà. J'ai lu que le Marcellin est un cépage de cuve. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifierait du coup qui mériterait d'être vinifié en cuve. Mais moi, de la manière dont je le conçois, après c'est personnel, hein, bien sûr. Mais j'aime le fait d'extraire de ce cépage beaucoup de puissance tannique. Et du coup, lorsqu'on extrait beaucoup de puissance tannique, il y a une belle structure. L'élevage en bois lui apporte justement après cette rondeur. Et puis pour moi, je sais pas, je le mettrai en barrique. C'est personnel après.
J'ai cru comprendre que c'est en tout cas pas un raisin de table, que c'est des petits grains et que à manger comme ça, à grignoter, c'est pas l'idéal.
Ah, tous ces cépages, on va dire assez riches en tanins et sont quand même des cépages plutôt de vinification que de raisins à croquer comme ça.
Voilà. Quand je me suis instruit sur le sujet, je me suis dit que c'était une espèce de réconciliation ou d'acte de paix entre le Bordelais qui produit du Cabernet et puis les côtes du Rhône où domine le Grenache. Donc comme le Languedoc est extrêmement hybride, il me semble que à Marseillan, où ce cépage a été créé et breveté en 1961, on a voulu réconcilier peut-être un peu les frères ennemis. Je l'ai pris un petit peu comme ça. Est-ce que au goût, vous trouvez que ça tient à la fois du Cabernet et du Grenache, ou bien est-ce que c'est maintenant un goût original?
C'est un goût. Non, je trouve que ça réconcilie. Je sais, ce que vous dites est vrai. Ça, j'ai pas autant recherché l'historique de ce cépage, mais c'est vrai que dans ce que vous dites, je remarque moi personnellement que c'est un Cabernet. On sent ces notes un petit peu poivrées, poivrons du Cabernet, mais c'est un cépage qui mûrit mieux dans nos terres à nous. On va dire justement, on a cette maturité du Cabernet qu'on a difficilement, ou du moins avec le réchauffement climatique, peut-être que maintenant on va pouvoir avoir une maturité optimale, mais justement on manquait de maturité sur nos terres genevoises, je trouve, avec le Cabernet, et du coup le Marsolan justement permet d'apporter vraiment ces cépages type bordelais dans nos régions par sa capacité à mûrir de manière plus précoce.
Voilà, je crois que les auditeurs auront envie de découvrir ce cépage. C'est aux urgences pour moi. On fera le nécessaire. J'ai cru comprendre aussi que le Marsolan se récoltait 3 semaines après le Chasselas.
Oui, bon, c'est l'origine du cépage. La technique de culture. Enfin,
Donc il arrive à maturité en tout cas chez vous.
Il arrive à maturité bien sûr, mais après chez nous à Genève, on a tellement une diversité de cépages qu'on est habitué à commencer les vendanges très tôt et à les finir presque des fois fin octobre début novembre. Donc c'est pas un problème pour nous, on a l'habitude.
Pour une fois, on se réjouit du réchauffement climatique qui nous menace.
Ah, j'oserais pas dire ça non mais
voilà, je le dis comme ça.
Radio Cité Genève.
I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. Whatever the weather, my heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Les vins genevois sont à l'honneur tous les lundis sur Radio Cité Genève grâce à nectar.ge.ch avec Aristide et son invité.
Alors, en présence de Anthony Fonjala, nous en venons au thème de l'émission, à savoir comment obtenir des beaux raisins. Et nous avons choisi ce sujet pour une raison très simple, c'est qu'on entend souvent dire que pour un bon vin, les 90% proviennent du beau raisin. Alors, comme Monsieur Fonjala a fait un excellent vin, je me suis dit comment est-ce qu'il fait pour produire de beaux raisins.
Alors ça, bon, c'est un travail, un processus qui dure vraiment toute l'année. C'est un suivi qui est une attention particulière et une rigueur, je dirais même, qui doit être maintenue tout le long de l'année. Mais c'est vrai qu'on ne crée rien. Le raisin, tout vient du raisin. Après, en cave, on peut que le mettre en évidence. Ou le protéger jusqu'à la mise en bouteille, mais voilà, finalement c'est du moment de la taille. On va déjà sélectionner un petit peu les bourgeons, le nombre de bourgeons qui vont donner ensuite naissance aux sarments qui donneront le raisin. Le raisin, une fois à maturité, on va le protéger du soleil, on va protéger les arômes du soleil en mettant entre guillemets les feuilles, en laissant les feuilles apporter un petit peu d'ombre sur le raisin. Et puis au soleil levant, on va enlever certaines feuilles pour laisser le vent et le soleil sécher les grappes pour apporter un microclimat sain. Et puis ensuite, ben voilà, avec l'apport de fertilité tout au long de l'année, avec
vous parliez d'engrais ou bien
voilà, des engrais minéraux, des du fumier, des choses comme ça pour nourrir notre sol. Et puis ensuite, ben voilà, ça va être tout le soin apporté à ces qui vont vraiment apporter vraiment tous ces précurseurs aromatiques, toute cette structure, cette colonne vertébrale d'acidité pour qui va donner du coup après des excellents crus.
Donc le rendement est en cause aussi. Donc la taille, entendu, elle, ouais, se veut sévère.
Une taille sévère, ensuite des raisins bien dégagés. Et puis voilà aussi, ouais, le rendement, bien sûr, c'est un des facteurs clés pour avoir un raisin concentré. Et puis après, le soin de la baie va nous permettre de pouvoir préserver ses arômes et puis un microclimat sain dans à l'intérieur de la baie.
Est-ce que tout cela commence en réalité avec le choix du terrain, parce que vous avez un terrain et vous pouvez vous dire est-ce qu'on met du Gamay, est-ce qu'on met du Viognier, est-ce qu'on met du Gewürztraminer. Est-ce que le choix du terrain fait déjà partie de vos préoccupations au tout départ?
Alors oui, bien entendu, le choix du terrain. Après voilà, l'expérience de mon père, de mon grand-père, des anciens qui ont aussi eu voilà, le regard apporté sur les cèpes. Du coup, moi personnellement, là, je commence enfin du coup à planter aussi. Je commence à planter un peu mes nouveaux cépages. Mais là, évidemment, ben voilà, on prend en compte évidemment la nature du sol, la situation géographique et puis quand on choisit l'encépagement de notre.
D'accord. Donc vous direz ce terrain convient mieux au Pinot ou ce terrain convient mieux au Gamaret et ainsi de suite.
Ouais, voilà.
D'accord, exactement, d'accord. Ouais. Donc il y a une spécificité. Est-ce que vous avez des études géologiques pour déterminer comme ça la vocation des différents parchets?
Alors oui, bon, après on a un peu l'historique de ces parcelles. On connaît un petit peu la nature de nos sols. Et puis ensuite, ben chaque année, on fait des prélèvements, on va creuser à l'intérieur de notre sol pour pouvoir un petit peu la physionomie et puis l'état on dit de santé de notre sol. Et puis voilà, on va le préserver. Et puis on connaît déjà nos sols entre guillemets sur lesquels on cultive nos vignes depuis des générations.
Est-ce que vous êtes tenté des fois de limiter drastiquement le rendement d'une vigne pour avoir un raisin, une cuvée de tous les diables?
Alors oui, bien sûr, principalement dans les cépages rouges, mais après le rendement, on peut pas limiter à l'infini. Il y a des vignes qui ont besoin du coup aussi d'avoir de la productivité, notamment on peut pas faire un chasselas à 10 grammes au mètre, c'est pas possible. Il faut aussi avoir vraiment cet aspect. Le raisin doit aussi avoir du jus et quelque chose de goulayant. Donc voilà, dans les cépages tardifs, comme justement, ben prenons exemple sur le Marcellan ou sur le Merlot ou la Syrah, c'est sûr que là, ben il nous faut limiter. Et puis sur les cépages un petit peu, ben voilà, comme le Chasselas, comme le Chardonnay, ben voilà, on va laisser aussi un petit peu un peu plus de raisin. Mais voilà, dans tous les cas, de toute façon, on enlève des grappes, c'est obligatoire pour avoir une qualité optimale.
D'accord, donc c'est les rouges que vous essayerez de limiter pour qu'il y ait plus de densité aromatique.
Voilà, surtout, voilà, principalement les rouges, pour comparer exactement. Mais après, il y a des blancs aussi qu'on limite, comme le Sauvignon, comme des cépages qu'on veut aussi plus concentrer.
On parlait des beaux raisins, donc. Et est-ce que des fois, si l'année est mauvaise, si l'automne est trop maussade et pluvieux, est-ce qu'il est nécessaire ou possible de procéder à un tri?
Alors oui, de toute façon, il est obligatoire de passer par un tri. Les vendangeurs du coup et les vendangeuses le font du coup avant la réception de la marchandise. C'est aussi l'avantage de récolter à la main. Et puis ensuite aussi, une fois sur place, juste avant le pressoir ou juste avant la mise en cuve des rouges, on procède aussi à un dernier tri. Mais là, le tri principal se fait à la vigne par les vendangeurs et puis en amont dans la saison aussi par les saisonniers. Mais ça, c'est des tris un peu plus d'ordre, voilà, de limitation de rendement. Puis après, le tri de chaque baie est fait du coup par les vendangeuses et les vendangeurs conformes, bien sûr, avant les vendanges.
Donc vous leur donnez des consignes, c'est pas comme dans certains vignobles prétentieux où on fait mine de prendre grappe par grappe et puis d'enlever les mauvais grains avec une pince à sucre, c'est pas ça?
Voilà, non, ça c'est plutôt pour la romance, mais c'est vrai que finalement on a aussi ce facteur temps, les vendangeurs et vendangeuses doivent ramasser dans un délai assez rapide, c'est parce que voilà, avec les températures qu'on a par exemple ces jours, si les températures sont de 25 degrés au vendange, il faut réceptionner la marchandise assez tôt, la récolte assez tôt, pour que la vendange arrive fraîche. Donc voilà, il y a toujours ce côté tri, mais il faut aussi que les gens soient formés pour qu'ils puissent avoir l'œil rapidement et puis ramasser cette récolte avant les grosses chaleurs de midi.
Voilà, donc les vendangeurs sont des lève-tôt.
Oui, il faut, c'est sûr.
Bien, voilà, maintenant on sait comment obtenir
des couches tard.
de très très bons raisins. Merci beaucoup.
Radio Cité Genève sur internet.
www.radiocité.ch
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous écoutez Radio Cité Genève, c'est l'émission sur les vins genevois, nectar.ge.ch, et c'est le moment tant attendu de la chaussette.
Le moment fatidique est arrivé avec la chaussette, donc qui est jamais qu'une chemise pour masquer l'étiquette. Nous rappelons que c'est la règle absolue de la dégustation. On peut tout raconter, même des fadaises, quand on a lu l'étiquette. On répète ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Donc c'est une dégustation qui ne vaut rien dans ces conditions. Alors la bouteille est chemisée. Et première chose, malgré tout, on voit l'embouchure. Mmh. Et il y a une capsule à dévisser. Donc est-ce que ce vin peut être, par exemple, un Viognier?
Alors, tous les vins peuvent être capsulés, les vins qu'on trouve aussi dans les grands commerces, mais c'est vrai que principalement, lorsqu'on voit une bouteille de verre transparent un peu vert, comme ça, on pense très rapidement à une bouteille de chasse là.
Voilà. Donc, vous avez vos petits indices.
Comme ça, à principe.
Mais... Voilà. Donc, on va pas pouvoir faire sauter le bouchon. Voilà. C'est un bruit moins poétique.
Mais la capsule est quand même une bonne technique pour préserver des très grands chasselas qui sont très bien maintenus en capsule. Ça permet quand même une belle conservation suivant quoi. C'est pas toujours un gage de mauvaise qualité la capsule.
Non, moi je trouve que la capsule d'abord elle est pratique et on a l'impression de tordre le cou à la bouteille. Donc il y a aussi quelque chose qui est assez suggestif. Voilà. Alors par contre vous entendrez le bruit du vin qui se déverse dans le verre. Voilà.
Merci.
Donc, vous êtes appelé à humer d'abord, enfin de faire un peu le tour du sujet, et à commenter ensuite ce vin. Ensuite, on vous révélera quel il est.
Bon, déjà, moi je trouve que, personnellement, qu'il a une belle intensité aromatique. Je veux dire, on sent quand même que le vin est expressif.
Voilà, monsieur Fongeal a fait tourner le vin dans le verre plusieurs fois. Pourquoi en somme? C'est une manière?
Bah déjà, bon, c'est déjà pour ouvrir le vin, mais c'est aussi pour laisser un petit peu le vin, les arômes venir jusqu'au nez. Et puis après, c'est une habitude comme un tic qu'on a dans le métier. C'est sûr que ça fait partie entièrement de la dégustation. En fait, on est le verre et le vin, on regarde un petit peu sa robe.
Une autre chose, vous inclinez le verre. Pourquoi?
Quand je fais tourner?
Vous le faites tourner, puis après vous l'inclinez.
Ouais, je regarde la couleur, je regarde un petit peu sa robe, je regarde sa brillance.
On apprécie mieux les reflets et tout ça.
Oui, ouais, ça fait partie aussi de la dégustation.
Voilà, vous avez feu vert pour déguster. Silence religieux.
Oui, il faut quelques secondes. Hein.
Il faut le temps de ne rien dire. Il ne faut pas parler tout de suite dans la dégustation, il faut parler le dernier.
Donc là, pour un chassable, je trouve qu'il est assez peu carbonique. Mais après, ensuite, il y a une belle rondeur. C'est assez court en bouche, mais je veux dire, ça en redemande. Je me dirais, ouais, ça peut être un vin à, je pense, 12,5 d'alcool. On sent quand même qu'il y a cette richesse. Enfin, pour un vin blanc, si c'est un chasselas.
C'est réglementaire, 12,5.
Oui, c'est réglementaire. Mais après, voilà, on a des vins, des chasselas qui peuvent aller suivant les millésimes. Cette année, ça monte assez haut en alcool. Bah, nous, voilà, moi, je cherche un chasselas plutôt à 11, 8, 12. Pour avoir vraiment un vin désaltérant sur la fraîcheur et pas trop sur l'alcool. Et puis là, on voit, je pense que c'est assez riche comme ça en bouche, il y a du volume. Donc voilà, j'imaginais comme ça un vin à chasse là, assez dans les 12,5, assez riche comme ça.
Voilà.
Et puis, un chasse là, tout à fait correct. Alors les arômes, sont assez fins, assez discrets. On est sur, il y a, petite minéralité comme ça, et puis, mais voilà, sans grande explosion aromatique.
Si j'ose faire un commentaire, je trouve qu'il n'est pas trop intense comme goût. Maintenant, je vois que déjà cela, peut-être à cause des étés de plus en plus chauds, il a un goût assez appuyé. Et vous ne trouvez pas que la vocation du chasselas, c'est quand même une finesse, quelque chose qui glisse agréablement?
Voilà, justement, je parlais de la richesse. Justement, moi, j'aime les vins qui sont des chasselas, du coup, assez vifs, comme ça, assez tendus en bouche, cette colonne vertébrale sur l'acidité. Et puis là, c'est vrai que la richesse fait que, du coup, c'est peut-être un vin un peu plus vif et plus carbonique qui amènerait justement ce côté désaltérant sur le long terme.
Voilà, donc un chasselas qui est représentatif, qui est typique, on peut dire.
Chaque vigneron a son style. Mais après, voilà, on ne veut pas trop commenter si c'est un collègue, je ne sais pas.
C'est un collègue, mais... nous faisons un devoir de faire goûter des vins genevois.
Ouais. Et... Mais je trouve qu'il y a de la rondeur, il y a du désaltérant, c'est un chasselas qui est tout à fait dans ce qui se fait.
Je ne veux pas vous demander de pronostic sur la provenance parce que ça serait de la sottise. Il s'agit du vin du domaine de Beauvin, à Vernet. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est un vin qui est, pour moi, bien représentatif des chasselas genevois. Et je me rappelle un vigneron de Dardagny qui disait, qui était agacé, exaspéré par toutes les spécialités de Pinot blanc, de Pinot gris, de Sauvignon, etc. Et tous ses collègues disaient, ma spécialité, c'est le Gewürztraminer, ma spécialité, c'est ceci, cela. Puis il disait, fièrement, ma spécialité, c'est le chasselas. Est-ce que vous souscrivez si on dit que les meilleurs chasselas du monde sont ceux de Romandie?
Bon, déjà, les chasselas, on est presque qu'en Romandie, en faire. On est qu'en Suisse romande à vraiment faire des grands chasselas. Du coup, oui, bien entendu, les plus grands chasselas sont Suisse romands, c'est sûr.
Oui.
Je l'assume.
C'est la référence.
Ouais, c'est même, c'est qu'en Suisse romande qu'on fait des grands chasselas, pour moi.
Voilà.
Principalement. Après, voilà, ce chasselas, maintenant, la passion du chasselas dépasse, du coup, nos frontières suisses. Donc, voilà, il y a des très grands vignerons qui commencent sûrement à en faire à droite à gauche. Mais voilà, je pense qu'en tant que Suisse et Suisse romand, pas besoin d'aller chercher hors de nos frontières un grand chasselas. On a ce qu'il faut ici.
Donc, chasselas, fierté de la Romandie. Eh bien, merci à vous, Anthony Fongeala, de nous avoir instruits. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.